7h40, on va parler des blogs, oui, comme disait Flaubert dans le dictionnaire des idées reçues à propos des expositions de peinture, de sculpture et autres, sujets de délire du 19e siècle. On peut dire la même chose des blogs pour le 21e siècle, pardon, ou au moins pour les deux dernières années qui viennent de s'écouler. Sujet de délire absolu, le blog c'est une sorte de mini-site internet personnel où vous pouvez écrire, mettre des images, du son, de la vidéo, c'est votre petit univers numérique personnel avec vos pensées intimes, vos analyses politiques, vos articles si vous êtes journaliste, vos cours, vos réflexions si vous êtes prof, vos rêveries, vos coups de gueule, vos coups de cœur si vous en avez envie. L'interactivité y est la règle, les internautes peuvent réagir à tout ce qui est publié en ligne et l'ensemble de la chose crée un maillage extrêmement dense appelé blogosphère. Invité de l'émission ce matin, trois maîtres du genre en France, Verzac, Maître Eolas et Zaki Laïdi, qu'on connaît bien sur France Culture, tous trois contribuent sous une forme ou une autre à la création d'un espace public numérique, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Il est 7h. Vous avez évidemment entendu plusieurs fois ces mots blog, blogueur, blogosphère. Ils sont devenus en quelques mois le grand sujet à la mode dans les magazines, les rédactions, les télévisions et même les radios. Et je sais en disant ça que je vais énerver les blogueurs qui détestent par-dessus tout qu'on associe leur passion à un simple effet de mode. Eux se voient plutôt à l'avant-garde d'une mutation profonde de l'information, de la constitution et de la diffusion du savoir, les tenants d'un nouveau partage plus démocratique des connaissances et des opinions. Vaste programme, on verra. Mais avant ça, quelques définitions pour ceux qui auraient échappé à la révolution. Je parle sous le contrôle de trois orfèvres. Un blog, c'est un site internet tenu par vous, moi, n'importe qui, un journaliste, un scientifique, un homme politique, un ado, un chercheur. C'est un site internet très bien fait dans lequel on peut mettre du texte, des images, de la vidéo, du son. Ces sites sont semi-ouverts. L'internaute de passage peut réagir, critiquer, commenter. Et l'ensemble de cette immense conversation visuelle créer un tissu serré, une sorte de maillage potentiellement étendu à l'échelle du monde. Il y a des blogs sur tout, sur les états d'âme du tenancier du blog, sur ses analyses politiques, sur ses cours, ses travaux, ses recherches sur la cuisine, sur tout donc et sur rien. On dénombre pour la France 6 à 7 millions de blogs. Alors je suis donc très heureux d'accueillir ce matin trois blogueurs, enfin 2,5 pour être très précis. Ils se nomment Versac, Maître Eolas et à visage découvert Zaki Laïdi. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Voilà, merci. Versac, un blog, on va dire entre éditorial et analyse politique. Une partie de votre blog est structurée avec le nom de différentes émissions de France Culture, Fort Intérieur, le rendez-vous des politiques, l'esprit public, etc. Maître Eolas, que j'ai pile devant moi, avocat orfèvre du débat juridique, vos billets font autorité dans la blogosphère, par exemple sur la directive droit d'auteur, sur la décision du Conseil constitutionnel sur le CPE, sur la dramaturgie même du procès. On peut lire tout ça, donc, au fil des jours, sur votre site. Et Zaki Laïdi, bien connu à France Culture, universitaire, chercheur aux séries, animateur d'une agence intellectuelle, Zaki Laïdi, c'est une sorte d'AFP du débat d'idées, pas un blog à proprement parler, puisque vous n'y racontez ni vos états d'âme, ni vos propres analyses politiques, mais la technologie de cette agence intellectuelle est commune avec celle des blogs. Donc, contribuer à l'essor d'un débat intellectuel sur Internet, voilà un petit peu la question à laquelle on va réfléchir après avoir tiré au clair quelques petits point de protocole. Maître Eolas, Versac, pourquoi des pseudonymes?
Versac. Alors moi, je ne suis plus anonyme, en fait, maintenant, parce que je n'arrive plus à maintenir mon anonymat. Au début, c'était parce que professionnellement, j'avais des activités, je voulais maintenir une muraille de Chine entre mes activités blogueuses et celles que j'avais professionnellement par ailleurs. C'est une manière de me protéger un petit peu professionnellement, en fait, principalement.
Maître Eolas.
Pour ma part, c'était une question de logique professionnelle. Quand j'ai ouvert ce blog, je voulais surtout pas qu'il puisse être assimilé à un site de cabinet d'avocat, à une volonté de me faire de la publicité, de partir à la pêche aux clients sur Internet. Donc cet anonymat me permettait d'échapper en quelque sorte à la réglementation déontologique sur les sites de cabinet d'avocat dont le contenu est très limité. Et puis ça me donne aussi une certaine liberté de parole. Je peux parfois dire ce que j'ai sur le cœur, pousser un coup de gueule en revenant d'une audience, sachant que le magistrat ou les confrères que j'aurais maltraités ne me reconnaîtront pas. Et je peux continuer à exercer ma profession comme je le faisais avant et comme je continue à le faire aujourd'hui.
Alors question que je vais poser à tous les trois, ça vous prend combien de temps par jour? Parce que les trois sites dont on parle ce matin sont extrêmement bien faits. Zaki Laïdi, ça fonctionne tout seul. Telos-EU, cette agence intellectuelle, ça y est, c'est rodé ou c'est tout de même un travail presque à temps plein?
Bah, c'est pas incompatible, c'est-à-dire le fait que ce soit rodé n'est pas incompatible avec le fait que ça demande du travail. Au contraire, un travail rodé a besoin d'être entretenu, donc ça demande beaucoup de travail et surtout ça demande un travail continu. Mais il faut bien voir que c'est pas le travail d'une seule personne, mais précisément d'une équipe rédactionnelle.
Il y a du monde donc avec vous pour animer ce site, qui est un site de réaction intellectuelle à l'actualité, on va dire. Hein.
Oui, alors, si vous me permettez, moi je trouve que les blogs, c'est quelque chose de très important aujourd'hui, mais très honnêtement, je ne me situe pas du tout dans cette blogosphère, pas par une sorte d'aristocratie intellectuelle, mais pour une raison très simple, c'est que il me semble que la logique des blogs, c'est l'idée d'un accès, d'une parole démocratique, libre, sur la toile, doublée d'une interactivité. Bien. Mais ces deux conditions qui me semblent fonder des choses comme Agoravox ou Wikipédia ne sont absolument pas du tout les éléments d'identité de Telos.
Oui, mais
c'est exactement le contraire.
C'est pour ça qu'on réfléchit ce matin à différentes formes de production de débats et d'idées sur Internet. Vous en faites partie. Je disais que votre site partage avec les blogs au moins une technologie.
C'est ça, une technologie.
Et les blogs ont l'essor qu'ils connaissent grâce à cette technologie qui permet très facilement d'avoir les informations sur tous les billets publiés donc en temps réel sur les blogs. Mais il me semblait très intéressant, Zaki Laïdi, de vous avoir ici, puisque vous ne partagez pas justement cette espèce d'idéologie semi-ouverte qui implique que l'ensemble d'une communauté d'internautes produit du savoir. Non, chez vous, ce sont des experts à l'ancienne, entre guillemets, qui produisent le savoir.
Oui, c'est-à-dire qui sont aussi sélectionnés, c'est-à-dire comme dans un journal en ligne qui demande à des gens d'intervenir. Et surtout, l'autre différence essentielle avec, à mon avis, les blogs, c'est que il y a réactivité très forte des auteurs, mais il n'y a pas interactivité. C'est-à-dire que les commentaires des gens qui répondent aux articles ne sont pas mis en ligne, et délibérément.
Donc, pour quelle raison?
Bah, tout simplement parce que je dirais que les réponses ne se situent pas au niveau des articles, pour cette raison. C'est-à-dire qu'il y a des commentaires qui sont intéressants, mais c'est pas, si vous voulez, des réactions d'un contenu équivalent. Alors, le jour, en revanche, où il y a un texte équivalent à la qualité du propos tenu, j'aurais aucun problème à le publier. Mais il faut qu'il y ait à mes yeux, il faut qu'il y ait une certaine équivalence en termes de contenu.
On peut au moins remercier Zaki Laïdi de ne pas parler la langue de bois.
Oui,
on va dire vers ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse-là? Je ne publie pas les commentaires, ils ne sont pas au niveau des textes que je publie par ailleurs, qui sont les textes d'experts.
Mais je peux juste un point dire.
Non, mais laissez-le répondre aussi, Zaki.
Mais les commentaires sont envoyés aux auteurs qui répondent aux personnes.
Oui, mais
tout à fait. Oui. J'en ai fait l'expérience une fois, enfin quelques fois. Moi, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas les commentaires, puisque les internautes font tout à fait la différence entre ce qui est le billet de l'auteur et ce qui sont les commentaires, qui est une discussion qui vient s'alimenter sur la base. Donc, on a lu le texte, et c'est une manière de consommer l'information qui est différente. C'est-à-dire qu'au lieu de simplement lire, et puis après, j'envoie un email comme je l'envoie à mon chroniqueur de France Culture avec des injures assassines ou des compléments d'information ou une réaction. Là, c'est public et s'engage une discussion qui est publique et qui va se mêler à d'autres discussions et qui va faire naître dans l'esprit des gens qui sont actifs dans leur démarche de réflexion, etc. Ça va faire naître un débat, ça va faire construire, ça va faire relier, on va se donner des informations. Et donc les commentaires sont quelque chose qui sont certes pas du niveau d'un grand article en 3000 signes, d'une sommité économique, mais qui apportent une valeur informelle, d'échange, qui aident vraiment à former son opinion.
Mais il y a, je l'entends dans la voix de Zaki Laïdi aussi, peut-être une critique de la démagogie, non, du commentaire.
Non, pas du ça, moi.
Moi, il y a pas de démagogie. Oui, il y a
des idées au fond.
Ouais, moi, je suis pas un ayatollah du blog et du commentaire. Je pense que parfois, on peut très bien les fermer, on peut les modérer. Il y a une espèce parfois de côté très libertarien sur Internet où, si vous rentrez pas dans ce côté ayatollah de la liberté intégrale et de la valorisation de tout le monde sur le même pied d'égalité, ça marche pas. Mais non, il n'y a pas de tyrannie du commentaire absolu. Hein.
Maître Eolas, pourquoi avez-vous créé le blog que vous animez, le journal d'un avocat?
Eh bien, comme je pense beaucoup de blogueurs aujourd'hui, j'ai commencé par lire les blogs des autres. J'ai découvert ce que c'était. Hein, c'était en 2003-2004. Et j'ai découvert cette source d'information, ce partage d'expérience, ces discussions qui est ainsi créée. Et j'ai rapidement... D'abord, on commence à laisser des commentaires sur les autres blogs. Et puis, des gens remarquent, un avocat qui laisse des commentaires, dit « Tiens, c'est intéressant ». Et puis, on finit toujours par laisser un commentaire interminable qui appelle invariablement la réponse « Tu sais, tu devrais ouvrir ton blog ». Et l'idée a été lancée et puis ça m'a tourné dans la tête et finalement j'ai franchi le pas en avril 2004 parce que j'avais déjà remarqué depuis longtemps, depuis même la fac de droit, que la question de justice intéresse énormément les citoyens, les questions juridiques aussi, mais très souvent l'explication claire, pédagogique manque. Et j'étais parfaitement placé pour expliquer comment fonctionnait la justice, tout simplement faire un petit travail de reporter aussi. Je suis dans des prétoires pour des audiences ordinaires qui n'intéressent au mieux la presse locale. On voit parfois des choses amusantes, parfois des choses tragiques. Et au début, mon blog racontait surtout comme ça des anecdotes d'audience. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à apporter des explications juridiques sur l'actualité, sur une loi qui est en cours de discussion. Et puis, le bouche-à-oreille a fait qu'aujourd'hui, c'est devenu vraiment une activité habituelle qui a fait ma réputation.
Vous avez dit un mot important qui est le mot de reporter. Vous vous considérez comme journaliste ou alors tenant d'une parole qui ne peut pas être accueillie dans un journal ou qui ne peut plus l'être?
Non, je ne me considère absolument pas comme journaliste. Je considère que le blogueur et le journaliste sont deux choses qui n'ont rien à voir, même si les deux ne sont pas incompatibles. Il y a des journalistes qui sont blogueurs. Mais le travail que... D'abord, je n'ai pas une formation de journaliste. Donc, je ne saurais pas faire ce travail pour lequel je n'ai pas été formé. Simplement, le travail d'avocat, c'est aussi de raconter des choses. La première chose que l'on fait quand on prend la parole, c'est de raconter au juge de quoi il s'agit. Parce que dans certaines affaires, les affaires civiles en tout cas, ils découvrent l'affaire au moment où le demandeur prend la parole. On a l'habitude de raconter ces histoires. Et je fais le trajet en sens inverse. Au lieu de raconter mon histoire dans le prétoire, je ramène une histoire du prétoire. Mais je ne fais absolument pas un travail de journaliste parce que je ne pense pas que les anecdotes que je raconte aient un quelconque intérêt informatif en elles-mêmes. C'est une illustration. C'est quelque chose qui sera dommage de perdre dans l'oubli.
Versac, votre rapport au journalisme, la singularité de ce que vous faites par rapport à ce qui peut se lire dans la presse, comment on pourrait le définir?
Moi, je ne sais pas si c'est très singulier par rapport à ce qu'on peut lire dans la presse. En l'occurrence, moi je me sens pas du tout journaliste, j'ai pas l'impression d'informer. De temps en temps, j'ai l'impression de relever de l'information qui est un peu dans l'oubli. Et on crée une discussion, on régénère, on fait remonter des informations. Qui est aussi le rôle parfois des médias. Oui, il y a des rôles entre les médias et les blogueurs qui sont un peu concurrents, mais le métier de blogueur, si tant est que ça puisse être un métier, ça n'en est pas un, c'est plutôt un hobby. Et celui de journaliste sont vraiment très différents. On n'a pas de valeur d'information et c'est pas notre métier.
Zaki Laïdi, par rapport à la presse qu'on peut lire dans les pages opinion, dans les pages idées, là on est tout de même très proche avec Telos-EU.
On est tout à fait très proche avec les pages débat des journaux, puisqu'il s'agit effectivement de dire... on mobilise un savoir d'experts ou de personnes à forte légitimité dans leur domaine, à très forte légitimité, et j'insiste sur ce point, c'est-à-dire que autant les propos tenus peuvent être contestés et doivent être contestés, autant ceux qui écrivent doivent avoir une légitimité incontestable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire sur 50 sujets. On écrit dans le ou les deux domaines où on a une reconnaissance. Et des gens qui ont une reconnaissance qui dépasse les frontières nationales. Alors, le lien avec la presse, il est très important. Et il est établi, y compris la presse écrite, puisque un tiers des textes paraissant sur Telos sont achetés par les journaux. C'est-à-dire que Telos fonctionne aujourd'hui comme un project syndicate francophone.
C'est-à-dire?
Eh bien, c'est-à-dire que les journaux achètent...
Project Syndicate,
c'est le grand Vous savez, c'est cette grande bourse aux articles qu'avait créé Soros après la fin de la guerre froide et qui est mondialement connue et qui est une bourse d'articles, si vous voulez, que les journaux du monde entier achètent. Simplement, le Project Syndicate a évolué vers une sorte de bourse de personnalités, ou donc avec ses avantages et ses inconvénients, c'est-à-dire que c'est des personnalités qui écrivent, mais en même temps, il y a toujours le côté officiel, répétitif du savoir. Donc, la première chose, c'est que un tiers des articles de Telos sont aujourd'hui achetés par la presse. Et deuxième chose, c'est que nous concevons, et nous avons commencé, avec les grands journaux, d'ailleurs français, à avoir des pages construite à partir des textes de Telos sur un sujet.
Donc une véritable agence de presse intellectuelle, voilà, fournissant du contenu sur l'actualité.
Alors, avec cette idée que c'est pas que ça, puisque les articles sont une base aussi à des choses plus collectives qui se font en dehors.
Allez, on va passer la parole à Alain Gérard Slama, qui ne tient pas encore de blog. Narcisse parle, Alain Gérard chronique ce matin.
Oui, vous avez compris que je n'en tiendrai pas. Alors, je ne voudrais pas minimiser l'intérêt des blogs, Nicolas, dont les auteurs sont souvent des personnalités éminentes.
Eh ben, Jacques, il a dit, maître Aléola, Versac.
Rendez compte, le blog est comme le compte d'auteur, il vaut ce que vaut son signataire. Et comme il est ouvert à tous à égalité, on y trouve l'équivalent des meilleurs articles de presse, ou pourquoi pas des meilleurs romans. Et parfois même, comme le disait un personnage de Musset, je lui trouve beaucoup de génie, beaucoup de talent et de la facilité. Alors le génie et le talent, je les salue autour de cette table. Vous avez compris que ce qui me gêne, c'est la facilité. Alors facilité d'abord du n'importe quoi. Et Dieu sait si quand on se promène sur la toile, le n'importe quoi est envahissant. Mais là n'est pas le plus gênant. Le gênant tient trois dangers, que les auteurs de blog connaissent d'ailleurs, mais dont ils ont parfois du mal à se garder. Le premier, c'est que le blog obéit à la loi du marché. Dans un champ culturel où l'extrapolation de la notion de marché économique à la notion d'échange, de jugement et d'idées est particulièrement dangereuse. Le marché économique incline dans le sens des intérêts commerciaux, le marché culturel incline dans le sens de plus grandes pentes de l'opinion, variable à chaque instant. Le blog est à bien des égards la dictature de ce marché de l'instant, de l'éternel présent cher à Zaki. Il est piquant de constater, je le signale au passage, que parmi les tenants les plus ardents du blog figurent des militants du prix unique du livre, de l'exception culturelle ou de la protection du droit d'auteur. Alors la deuxième tentation du blog, c'est le relativisme. L'information consiste en principe dans la recherche de la vérité. Dans l'univers de l'opinion des blogs, toutes les vérités se valent. Si on est optimiste, on peut considérer que le blog est un bel exemple de pluralisme et surtout une conquête du droit réel de communiquer sur la liberté formelle de s'exprimer, à nous la mener. Mais on constate chaque jour à quel point le blog ouvre la porte au fantasme, à l'information non vérifiée, à la diffamation, à la calomnie. Les bons blogs s'efforcent naturellement d'échapper à ce reproche. Il n'en va pas de même des commentaires qu'ils suscitent et que leur autorité semble couvrir à la manière d'un courrier de lecteur non filtré. Alors le blog renoue ainsi, sans toujours le vouloir, avec le climat d'irresponsabilité des débuts de la presse d'opinion. Troisième tentation, et j'arrête là, c'est l'abaissement de la frontière entre l'espace public et la sphère privée, mais je sens que mon voisin me reproche là de reprendre un thème qui m'est assez familier, et j'ai besoin d'ailleurs de son surmoi pour quelquefois me corriger. Et bon, cet abaissement de la barrière entre public et privé pour corriger là le mépris des codes de civilité, de la pudeur, la toile, on commence à s'en apercevoir, fait tomber ses barrières. Alors cette confusion d'un côté encourage le narcissisme du blogueur. Et il faut un sacré nombrilisme quand même pour créer certains blogs. Et de l'autre, elle réalise le rêve de Big Brother qui est d'investir la personne dans sa totalité, du matin au soir, de la rue au bureau jusqu'à la chambre à coucher. Alors je suis désolé de paraître prêché pour ma paroisse, mais l'article de presse écrite, parlée ou télévisée exige, au moins en principe, plus de responsabilité, de respect de l'autre et j'ajouterais même de courage.
On a trois irresponsables autour de cette table. Zaki Laïdi, Maître Eolas et Versac. Alors, Alain Gérard Slama faisait référence à l'un de vos billets, Versac, où vous le fustigiez après une chronique sur le communautarisme.
Sympathiquement, et ça m'a beaucoup amusé.
Voilà. Mais alors, un mot tout de même sur l'irresponsabilité. Il nous reste une minute, on a beaucoup de temps après le journal, mais là, pour l'instant, un mot sur l'irresponsabilité. Les blogueurs sont irresponsables.
Peut-être au début, moi je suis plus irresponsable quand j'écris mes billets parce que j'ai beaucoup de lecteurs par jour, je suis exposé, les gens me disent à la même manière qu'un journaliste. Alors j'ai pas mon salaire qui en dépend, j'ai pas d'argent qui en dépend. C'est d'ailleurs ce qui fait aussi que je suis moins soumis à la loi du marché, peut-être que certains médias, en tout cas dans le choix de mes sujets. Mais non, je me sens vraiment pas irresponsable. Hein.
Et un mot sur la diffamation, Maître Eolas, l'orfèvre du droit.
Bien sûr que les blogueurs ne sont pas à l'abri de la diffamation. Christophe Grébert en sait quelque chose. Il tenait le blog monputo.com, il s'est retrouvé cité
devant la tribune, ouais.
Absolument, même s'il a été relaxé. Le tribunal n'a pas estimé que les blogueurs étaient irresponsables. Au contraire, il a estimé qu'en l'espèce, il était de bonne foi, donc il échappait à la condamnation. Mais précisément, il y a l'illusion peut-être de l'irresponsabilité, mais pas d'irresponsabilité.
Bon, Zaki Laïdi, vous gardez vos arguments sous le coude pour répondre à Alain Gérard Slama. Je vous voyais faire la moue tout à l'heure pendant sa chronique.
Non, il n'est pas concerné, lui.
Mais oui, si, un petit peu, un petit peu quand même. Il veut pas le dire. Il est 8h sur France Culture. On retrouve l'ensemble de nos invités juste après le journal d'Hervé Gardette. www.franceculture.com. On parle des blogs ce matin avec Versac, Maître Eolas et Zaki Laïdi, qui n'anime pas un blog mais une agence intellectuelle, mais qui croit tout de même, Zaki Laïdi, dans la puissance du média Internet. C'est plus que du papier, c'est pas simplement une autre technique.
L'Internet, ça, c'est un pouvoir multiplicateur exceptionnel, c'est-à-dire que d'abord, il permet une réactivité assez forte, équivalente à celle que l'on peut avoir dans les journaux. Mais ce qu'il faut voir, c'est l'effet de communauté, c'est-à-dire l'effet de réseau. Telos a été créé il y a 3 mois, il y a déjà plus de 105 intervenants. Et que ces intervenants, je dirais, ont une vie collective, parce que c'est ça aussi qu'il faut voir, au-delà du net. Ils vont se réunir, ils vont discuter d'un certain nombre de thèmes. Ces thèmes donnent lieu à des recherches qui sont financées, que les chroniques seront publiées sous forme de livres, que les chroniques donnent lieu à d'autres travaux, eux-mêmes donnant lieu à des livres. Et pour moi, c'est avant tout le travail d'une communauté intellectuelle qui simplement utilise un média qui se trouve être l'Internet parce que c'est le média de demain. Et moi, mon message, c'est de dire simplement, il faut que, mais c'est déjà le cas, que les intellectuels prennent Internet au sérieux. Et je ne vois pas d'ailleurs de discontinuité entre l'Internet et le papier, puisque comme je vous dis, plus d'un tiers des textes de Telos sont repris aujourd'hui par la presse française et étrangère.
Donc, combien de personnes passent par votre site, Zaki Laïdi?
Ça, je ne pourrais pas vous dire. En termes de visite, j'ai pas les chiffres, mais on est à quelques milliers.
Et chez vous,
par jour.
Versac?
Moi, je suis à peu près à 1000 par jour en moyenne. 30 000, entre 30 et 40 000 visiteurs par mois.
Et chez vous, Maître Eolas?
5 000 en moyenne avec des points.
Par jour, là?
Par jour, oui. En moyenne avec des points à 10 à 12 000 lors des récents débats sur le CPE.
À cause de quel billet?
À cause d'une série de billets, en fait, que j'avais fait pour expliquer ce qu'était le CPE et qui m'a surpris moi-même par le nombre de réactions que ça a entraîné. Un billet qui a été beaucoup signalé, qui a ramené d'autres lecteurs, des pour, des contre, et une vraie discussion est née. Et c'était un billet qui a été très très vivant, alors que je m'attendais à un succès relatif.
Mais vous disiez quoi de plus sur ce blog, sur le CPE, par rapport à la masse de ce qu'on a pu lire dans la presse, dans les hebdomadaires, entendre à la radio, les reportages vus à la télévision? Qu'est-ce que vous avez apporté là?
Très simplement une traduction juridique française, c'est-à-dire que j'ai pris le texte de loi et qui en lui-même était absolument incompréhensible puisqu'il fonctionne comme toutes les lois aujourd'hui par renvoi, c'est-à-dire on disait l'article tant de telle loi est modifié, on rajoute tel mot, c'est incompréhensible. Donc j'ai traduit cet article en reprenant les articles qui étaient cités, en expliquant pour chaque alinéa ce qu'il modifiait dans la réglementation actuelle, ce qui faisait une explication compréhensible, je pense, par tous. Et il s'avérait que beaucoup des critiques entendues de la part des anti-CPE s'avéraient largement infondées.
Pour quelle raison?
Eh bien, parce que notamment le débat qu'il y a eu, c'était sur la fameuse période d'essai de 2 ans, qui en fait n'était pas une période d'essai, puisque il y avait bien une période d'essai dans le CPE, donc je distinguais au fur et à mesure de l'écoulement des mois le statut exact du salarié, et puis sur le licenciement sans motif, qui en soi est un non-sens, puisqu'un employeur qui n'a pas de motif de licencier ne licencie pas, et surtout le fait que même si la loi dispense l'employeur de motiver la lettre de rupture du contrat, il est possible d'exercer un recours devant le conseil du prud'homme où là nécessairement le débat sur le motif de licenciement aura lieu. La loi, il le citait expressément. Donc il y a eu une large exagération. Je dénonçais cette exagération sans me faire l'apologue du CPE, même si c'est un peu le procès d'intention qu'on m'a eu après. Mais ça,
bah voilà, c'est... justement, Maître Eolas, que disaient les commentaires, parce qu'ils sont vifs toujours sur Internet, dans les blogs. On se souvient, et Versac avait eu un rôle important aussi au moment du débat sur la Constitution européenne.
Avec Maître Eolas.
Avec Maître Eolas, dans un site commun qui existe toujours, si je ne m'abuse.
Tout à fait.
Et qui s'appelle Publius, qui est sur l'actualité intellectuelle et politique de la vie européenne. Les passions sont vives et fortes hein, sur ces sortes de forums que sont aussi les blogs.
Oui, les commentaires sont facilement vifs, mais ils ne le sont pas tous. Simplement, là, c'était un sujet vraiment d'actualité brûlante. Il y avait des manifestations, il y avait des situations presque conflictuelles dans certaines facultés. Il y avait des étudiants pour le blocage, qui est quand même une voie de fait. Là aussi, je dénonçais cela parce que ça pouvait constituer un délit. Je cite expressément quel article était concerné. Des étudiants qui n'avaient un peu rien à fiche du CPE, qui pensaient plus à leurs examens et qui étaient un peu désespérés de se retrouver dans ces situations-là. Et dans les commentaires, ces points de vue s'échangeaient. J'ai laissé ferme. Bon, je me suis pris ma part d'attaque. Mais ça, de toute façon, quand on fait un blog, il faut avoir le cuir solide. Je suis dans un métier où la controverse est un peu habituelle. Donc, ça va, je n'ai pas peur de me faire contredire, même un peu durement. Et puis, au moins, ça permettait ce dialogue qui s'avérait impossible sur les campus où ce sont surtout les extrêmes qui parlent le plus fort que l'on entend.
Versac, ça a été un moment important pour la blogosphère, le débat sur la Constitution européenne. C'était il y a un an, on a l'impression que c'était il y a 1000 ans déjà.
C'était déjà il y a longtemps. Ça a été un moment important. Ça n'a pas été le moment fondateur qu'on aurait pu imaginer. Puisque étonnamment, c'est pas tant les blogs qui ont fait le débat sur Internet que des sites très traditionnels et ceux qui ont eu l'influence, hormis Publius, qui est une initiative qu'on avait donc avec Maître Eolas notamment, qui a eu sa petite importance. On a attiré 500 000 personnes au total sur la période de la campagne, donc c'est quand même pas rien du tout. Mais en fait, ce sont pas les blogs qui ont mobilisé, ce sont des sites tout à fait fermés aux commentaires et pas ouverts au débat de mobilisation et militantisme. L'acte fondateur pour moi, il y a deux actes fondateurs de la blogosphère au niveau politique et du débat public, c'est le débat sur le droit d'auteur, où la blogosphère a joué un rôle de chambre d'écho extraordinaire, et les débats récents sur le CPE, où alors là, on a eu un volume absolument incroyable d'échanges et un bruit monumental qui est venu accompagner le bruit qu'il y a eu dans la rue, qui a été de la même ampleur qu'on n'avait pas eu dans les blogs, peut-être parce qu'il n'y a pas assez de blogueurs, pas assez de monde, pas assez de gens, il y a un an.
Il y a une question de masse critique.
Il y a une question de masse critique, c'est-à-dire que maintenant il y a plusieurs millions de personnes qui lisent les blogs, il y a plusieurs millions de personnes qui en écrivent. Ces gens-là sont tous investis là-dedans et donc ils sont tous ensemble, ils peuvent générer un bruit tellement fort que ça peut avoir un impact hors de cet espace un petit peu fermé et de discussion entre soi.
Et vous pensez vraiment que la blogosphère a constitué le rapport de force sur le débat sur le droit d'auteur ?
La blogosphère, le débat sur le droit d'auteur, c'est surtout fait sur des forums et sur des espaces qui ne sont pas des blogs de mobilisation des gens de la communauté des logiciels libres du militantisme classique contre les majors, etc. Mais les blogs ont joué un rôle de chambre d'écho, c'est-à-dire qu'ils sont venus apporter à ce débat entre initiés un volume de contributions un peu à la veille ou dans les derniers moments avant le vote. Qui a alerté le politique. Et beaucoup de députés reconnaissent, qui ont voté en décembre cet amendement sur la licence globale, qu'ils ont été alertés par cette mobilisation sur Internet.
On vous retrouve, messieurs, dans quelques minutes pour la dernière partie de notre entretien. On va laisser la parole à Olivier Duhamel à 8h30 sur France Culture. Chronique ce matin, l'hyperactif et l'interactive.
Les deux candidats aujourd'hui favoris pour la prochaine élection présidentielle se distinguent assez nettement dans leur pré-campagne. Ils ne s'opposent pas tellement, ou pas encore, sur le fond. On pourrait même s'amuser à relever leur convergence. Nicolas Sarkozy, comme Ségolène Royal, ne voulait ni l'un ni l'autre du CPE, même si leurs réticences ou oppositions n'obéissent pas aux mêmes raisons. L'un et l'autre prônent le changement juste. Ségolène Royal déclarait à Paris Match la semaine dernière vouloir, je cite, « un ordre juste ». L'ordre durable est celui qui est consenti. L'ordre se conquiert par l'exemple et par la confiance. Et en écho, dans le Figaro de ce mardi, Nicolas Sarkozy insiste, je cite, « j'appelle mes amis à comprendre que la rupture ne sera acceptée des Français que si elle est perçue comme juste ». Consentir, accepter, un ordre juste, une réforme juste, étonnante, identité de vue. Gageons que demain les divergences se marqueront lorsque l'on passera au contenu des réformes en question. En attendant, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal s'opposent très fortement dans la manière de procéder. D'un côté, le président de l'UMP renoue avec le présidentialisme hyperactif. Il décline au fil des semaines un programme présidentiel qui se veut aussi gouvernemental et législatif. Les propositions se font de plus en plus précises, domaine après domaine. Ainsi, s'agissant de l'éducation, Nicolas Sarkozy propose rien moins qu'une réforme radicale des zones d'éducation prioritaires, ou encore la suppression pure et simple de la carte scolaire. Pour les institutions, il avance toute une série de réformes qui touchent la présidence, les ministères, l'Assemblée, le Sénat, le Conseil constitutionnel, le mode d'élection. Dans le domaine social, il veut un contrat de travail unique et l'obligation d'exercer une activité en échange d'un minimum social, etc., etc. Rien de tel chez Ségolène Royal. Elle n'affirme pas, elle interroge. Elle ne propose pas, elle écoute. Lorsque l'on se rend sur son site internet Désir d'avenir, on lit aussitôt les lignes qui suivent. Bonjour, ce site est un forum participatif. Il est à vous si vous avez envie de participer aux décisions qui nous concernent. Pour avoir commencé à expérimenter la démocratie participative en région Poitou-Charentes, que je préside, j'ai acquis la conviction que les citoyens, lorsqu'un problème est vécu ou lorsqu'un progrès est espéré, sont des experts légitimes de la question posée. Et dans la foulée de cette profession de foi, elle écrit son livre au fil des mois, en soumettant ses chapitres au fur et à mesure aux internautes chargés de l'amender et le compléter. L'opposition entre le présidentialiste hyperactif et la pré-candidate interactive tient d'abord à la différence de leur situation. Le premier préside l'UMP et sa candidature semble certaine. La seconde n'est qu'une des responsables du PS parmi beaucoup d'autres et doit encore gagner la bataille de l'investiture. Sarkozy fait le projet de son parti, Royal devra faire avec celui du sien. Au-delà se dessinent pourtant deux conceptions opposées de la présidence. Nicolas Sarkozy incarne la tradition de la présidence de l'omnipotence. Ségolène Royal veut inventer la présidente différente. Ce contraste est assez inédit entre modèle hyperactif et modèle participatif. Nous verrons s'il peut tenir jusqu'au bout.
Voilà, c'était la chronique d'Olivier Duhamel, podcastable comme celle d'Alexandre Adler, comme celle d'Alain Gérard Slama, comme celle d'Olivier Passeret, comme celle de Marc Ravetz quand il n'est pas au Moyen-Orient pour France Culture en reportage, et comme la totalité de l'émission. C'est aussi ça, la modernité radiophonique. On parle justement d'Internet, des blogs, du débat d'idées numériques avec Zaki Laïdi, fondateur et animateur du site Telos-EU, une agence intellectuelle, un think tank collectif en ligne. On va venir à toutes ces expressions, Zaki Laïdi. On est également avec Versac, titulaire et animateur du site, donc du blog. Versac est un blog entre l'analyse politique et l'éditorial. Très intéressante contribution, Versac, sur la sociologie des blogs politiques. On va en parler tout de suite. Et Maître Eolas, donc 5 à 10, 12 000 personnes lisent vos billets sur le droit, sur les procès, sur les grands débats juridiques, que ce soit le CPE, que ce soit la directive droit d'auteur. On indiquera évidemment sur le site internet de France Culture l'ensemble des liens vers vos propres sites. Un mot, Versac, peut-être, vous qui êtes spécialisé dans la chose politique et numérique, du programme en construction de démocratie participative dont parlait Olivier Duhamel à propos de Ségolène Royal dans sa chronique à l'instant.
Oui, c'est rigolo puisque j'ai publié un billet sur le même sujet à peu près il y a assez peu de temps. Je me demande si Olivier Duhamel ne m'a pas lu ou sinon si c'est une simple conjonction d'idées. Et non, moi j'étais très sceptique sur la démarche de Ségolène Royal à son lancement, parce que il n'y avait aucun contrat qui était passé avec les participants, et c'était « allez-y, espace libre, exprimez-vous ». Peu à peu, c'est en train de se dessiner, de se structurer. C'est encore un petit peu angélique. On sent qu'ils font ça de manière peut-être un peu précipitée ou qui sont dépassés par leur succès. Le débat en ligne, quand on veut construire de manière collaborative de la pensée ou du programme ou des diagnostics, ça nécessite de la structuration, ça nécessite une modération, un travail qui aujourd'hui est un peu décevant quand on lit le démarrage du premier chapitre que Ségolène Royal a mis en ligne sur son site. On a un peu l'impression de lire une prise de notes par un bon étudiant stagiaire dans l'équipe de cabinet d'un ministre habituel.
Et donc, dans la sociologie des blogs politiques que vous faisiez il y a quelques mois sur votre site, Versac, ça entrerait dans quoi? Dans les sites de communication, dans les sites politiques qui ne sont pas encore vraiment formalisés en tant que tels? On est très loin des potentialités de l'outil. Où est-ce qu'on est là?
On est peut-être au démarrage de quelque chose, hein, avec le site de Ségolène Royal. Si on fait une petite sociologie, il y a des rôles qui se déterminent. Tout ne se vaut pas, malgré ce qu'on peut dire. Tout le monde ne se vaut pas, toutes les paroles ne se valent pas. D'abord, il y a des producteurs d'idées et des contributeurs qui viennent apporter du fond. Il y a des gens qui jouent un rôle de relais. Et puis derrière, il y a le politique qui vient s'insérer en se mettant de plein pied avec ces gens-là. Et Ségolène Royal joue beaucoup cette carte-là, c'est-à-dire qu'elle considère qu'il y a plein de producteurs d'idées sur Internet et qu'il faut venir les attirer chez nous parce que c'est une manière de les investir. Et donc, elle essaye de jouer ce rôle-là. J'ai l'impression qu'elle y arrive plutôt bien en termes de succès parce que beaucoup de gens la regardent, s'intéressent et ont envie de participer. Il y a des tonnes de blogs de soutien à Ségolène Royal. Il n'y en a aucun, excusez-moi, mais à Jack Lang ou Dominique Strauss-Kahn qui sont spontanés. Et c'était vraiment des choses spontanées. Donc, elle joue sur ce succès pour avoir cet aspect participatif et d'être acteur de ces gens qui veulent être plus acteurs que simplement lecteurs.
Zaki Laïdi, au moment où s'ouvraient les débats de l'OMC, on avait pu lire en ligne un certain nombre de textes de Pascal Lamy sur Telos-EU. Comment avez-vous eu ces textes, première chose, et pour vous, quelle est l'importance de ce type de publication au moment où démarre une vaste négociation commerciale? Inspiration, réponse.
Non, ce que je voudrais dire simplement, c'est que moi, je ne veux pas donner la parole aux politiques. Hein. C'est un espace pour les intellectuels. Il n'y a pas de place pour les acteurs politiques. Ça, c'est absolument fondamental.
Pascal Lamy, c'est une exception, donc.
C'est une exception, mais disons que là, on n'est pas dans une logique d'acteur politique, on est plutôt dans une logique d'acteur sur un sujet extraordinairement complexe et difficile. Et voilà, simplement, je ne donnerai pas la parole à des acteurs politiques.
Mais pour quelle raison, au fond?
Mais parce que, encore une fois, ce que je veux valoriser, c'est l'expression collective d'intellectuels qui réagissent aux problèmes d'actualité en s'appuyant sur la compétence et la reconnaissance dont ils jouissent. Ce que disait tout à l'heure Alain Gérard sur la facilité ou sur le relativisme, mais c'est précisément des catégories contre lesquels personnellement je m'insurge, mais de manière assez naturelle, puisque précisément les contributeurs, c'est pas des contributeurs spontanés, c'est une équipe rédactionnelle d'universitaires et de chercheurs qui chaque semaine décide de choisir de traiter un certain nombre de sujets, pas tous les sujets, et qui fait appel à la compétence de ces gens pour traiter ces sujets. Donc on n'est pas du tout dans une logique relativiste, et comme je le disais tout à l'heure, autant leurs propos peuvent être contestés, mais leur légitimité me paraît incontestable, enfin à ma connaissance.
La question de la qualité, on va y revenir, elle est
parce
fondamentale.
Que je crois que c'est fondamental.
Alexandre Adler.
Je suis tout à fait d'accord pour donner un label de qualité à Pascal Lamy, d'ailleurs ce n'est pas de ma part une grande originalité, et je suis tout à fait sensible au souhait de Zaki de vouloir avoir un blog dans lequel la compétence et la capacité de savoir de quoi on parle s'affirme et pas justement cette espèce de bruit généralisé qui finit par recouvrir tous les discours. Tout ça me paraît excellent. Seule chose sur laquelle je voudrais réagir, parce que c'est aussi un aspect du blog qui me plaît beaucoup, c'est que on parle franc. Alors, vous voyez, il se trouve que je pense beaucoup de bien de Pascal Lamy, notamment pour le courage qu'il a montré à défendre la mondialisation et la pédagogie démocratique qu'il fait pour expliquer que l'OMC n'est pas un vaste complot dont les retombées sont l'incarcération de José Bové chaque fois qu'il veut défendre les plantes. Donc, bon, mais dire que Pascal Lamy n'est pas un politique, ça, alors là, par contre, c'est ce que sur un blog, j'aimerais bien écrire. D'abord, il s'est présenté aux élections, dans l'Eure-et-Loire, le Lyon. Ah oui, mais ça, bon, tout le monde n'a pas de succès, moi-même, je n'ai pas eu que des succès. Mais Pascal Lamy s'est présenté comme candidat socialiste dans la circonscription de son beau-père, une famille socialiste. Il a été le principal collaborateur de Jacques Delors, pas technocrate, justement, mais politique. Et tout le monde sait que à la veille de l'élection de 2002, il passait une demi-journée à Paris pour briefer Lionel Jospin sur des questions internationales que celui-ci ne connaissait pas bien, donc il était candidat in pectore pour être ministre des Affaires étrangères. Et je ne vais pas faire une révélation devant nos auditeurs, mais je pense qu'il pourrait très bien être le premier ministre de Ségolène Royal. Donc oui, je suis persuadé qu'il est compétent.
Paris sur l'avenir.
En tout cas, c'est le choix que je lui conseillerais pour ma part, parce qu'il est à la fois autoritaire et capable de discuter, ce qui est probablement l'équilibre très difficile auquel on doit atteindre aujourd'hui dans la vie politique. Enfin, c'est une personnalité socialiste de premier plan. Je veux dire qu'ils en ont pas beaucoup d'ailleurs.
Juste proche de Zaki Laïdi. Un mot Zaki Laïdi.
Oui, non, juste un mot. Je veux dire, Pascal Lamy, je pense le connaître assez bien puisque j'ai été conseiller spécial de Pascal Lamy pendant 5 ans. Donc quand il était à Bruxelles. Donc la question n'est pas vraiment celle-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il est des opinions politiques, c'est évident, mais ce que je veux dire, c'est qu'en son intervention, en l'occurrence, était sur la négociation de l'OMC, et qu'en tant que tel, il intervenait en tant que directeur général de l'OMC.
Mais ça veut dire, votre agence, Zaki Laïdi, ça veut dire qu'elle est orientée politiquement, elle est autour d'une certaine couleur, ou c'est du vrai débat d'idées, entre guillemets.
Alors, puisqu'on parlait de Pascal Lamy est le président du
Mais n'esquivez pas la question.
Non,
hein.
je n'esquive rien du tout. Pascal Lamy est le président du comité de parrainage de Telos, donc j'ai pas, mais c'est public et c'est sur le site. Et donc il participe à la réflexion globale, y compris à trouver des soutiens à Telos et à donner son avis sur les papiers. Mais son avis, je le prends comme celui d'autres participants à cette opération qui est une opération intellectuelle. Bien. Donc ça, c'est un point. Alors en termes d'orientation, et c'est là aussi, j'insiste sur le fait que je ne donnerai pas la parole à n'importe qui, parce qu'effectivement, il y a une orientation politique, oui, c'est une orientation de nature réformiste. Absolument.
Parlons franc, comme disait Alexandre tout à l'heure.
Je pense qu'il suffit mais attendez, il y a un exposé des motifs, cher Alexandre, sur le site, qui exprime l'orientation. C'est une orientation réformiste, c'est-à-dire que, par exemple, dans le débat français, il est clair que les intermondialistes ne sont pas mes amis. Et tous ceux qui me connaissent le savent. Maintenant, ce n'est absolument pas militant. C'est ça ce que je veux dire. Donc c'est une orientation réformiste, mais avec des nuances. C'est ça aussi qu'il faut voir. C'est que une fois qu'on a dit qu'on est réformiste, il y a des nuances, il y a des débats, il y a des papiers, parce que c'est pas des billets, mais c'est des papiers sur lesquels on a eu des discussions, nous demandant si par exemple il fallait les publier ou pas. On a des incertitudes, mais tant mieux. Donc c'est une inspiration politique très clairement réformiste, mais encore une fois avec toute la palette de nuances que ce terme signifie, et je pense qu'il a son importance.
Versac, je me souviens d'un de vos billets où, je crois, via un petit logiciel, vous cherchiez à vous placer politiquement, ou via une enquête ou un test, un protocole permettait de savoir où vous étiez politiquement, et la réponse était assez étrange, c'était un mélange de gauche extrême et de centre droit, non, si je ne m'abuse. surprise. Je vous pose cette question-là pour la question de l'orientation politique, justement.
François Balladurien.
Voilà, c'est ça. Édouard Balladur qui sera notre invité mardi prochain.
Et Léon Trotsky viendra bientôt aussi.
Non, vous savez, il y a plein de ces petits logiciels qui circulent sur Internet. Vous posez quelques questions. En général, ils sont faits par des Américains parce qu'en France, on a une masse critique d'internautes moins importante. Et donc, évidemment, quand vous prenez les tests américains, tout le monde se retrouve démocrate en France. Donc, j'étais démocrate, mais en termes de positionnement, je me trouve pas très loin de Telos dans une orientation réformiste qui hésite entre la gauche et la droite. Oui.
Faudra trancher en 2007. Hein. Et Maître Eolas, il est où ?
Zaki n'hésite pas du tout.
Maître Eolas, il est où ?
Maître Eolas, il est surtout sur le plan juridique. Je ne fais pas tellement de politique. Alors, régulièrement, je me prends là-dessus des procès d'intention pour revenir à l'affaire récente du CPE, puisque mon premier billet a été assez cinglant vis-à-vis des étudiants qui provoquaient ces blocages. Je leur critiquais l'usage abusif, à mon sens, du terme de syndicat d'étudiants et du droit de grève. Mmh. Alors, donc, je me suis, dans un premier temps, fait accuser d'être du côté du gouvernement, jusqu'à des billets suivants où j'ai été très cinglant vis-à-vis de l'attitude de l'exécutif dans cette affaire. Donc je suis assez insaisissable et cette position me va très bien.
Alain Gérard Slama.
Vos positions.
Alors Alexandre Adler.
Remarquez simplement, c'est pas du tout pour vous embêter, mais après avoir fondu comme ça sur mon ami Zaki Laïdi, je veux équilibrer que les deux positions que vous énoncez sont totalement celles de Nicolas Sarkozy. Il est contre les syndicats étudiants et il pense que l'exécutif ne s'est pas très bien débrouillé de cette affaire.
C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy étant un confrère, forcément le corporatif m'oblige à le soutenir.
Recevoir un message d'Olivier Duhamel me disant qu'il n'avait pas lu le billet de Versailles. Alain Gérard Slama.
Oui. Non, moi, j'ai qu'une remarque à faire, qui est de rappeler quand même que c'est souvent n'importe quoi, les blogs. Il faut quand même le dire.
Allez-y, dites-le, Alain Gérard.
Merci, Alain Gérard. Écoutez, d'abord, pour plusieurs raisons. D'abord, on a envie, en général, de savoir qui parle et d'où on parle. Hein, ça, c'est le vieux truc de mai 68, et je crois que c'est valable. C'est très valable. Le plus souvent, on tombe sur des blogs, on ne sait pas qui parle, ni d'où ça parle.
Il y a le blog d'Alain Juppé quand même.
Pardon ?
Il y a le blog d'Alain Juppé là.
Il y a le blog de... Eh bien vraiment, hein, dans le bourbier, dans l'étrange bourbier où Juppé s'enveloppe, je ne reconnais plus...
Alors allez-y alors.
Ce bon vieux misanthrope. Voilà. Alors... ça fait deux Alexandra quand même, j'ai tenu le pari. Bon, je reviens à mon propos qui est celui-là, qui est que il y a le côté n'importe quoi, on ne sait pas qui parle, on ne sait pas d'où ça parle. Alors bien sûr, à la longue, ça se différencie, les qualités apparaissent, je disais tout à l'heure, c'est comme le compte d'auteur. Mais il y a surtout quelque chose qui est préoccupant, sur quoi, Maître, vous n'avez pas répondu, ce sont ces fameux commentaires. Quand on les laisse paraître, ils sont bourrés de diffamation, et en particulier dès qu'il s'agit d'un homme politique, souvent, alors là, la haine se déchaîne.
Ou d'un chroniqueur sur France Culture.
C'est le pilori. Les chroniqueurs de France Culture sont tellement, on le cuire tellement, épais, je voulais éviter
les
ce
politiques
mot.
Aussi.
Bon. Et les politiques aussi, oui, quand même. Non. Là, on entre souvent, alors, dans des allusions à la vie privée, dans des choses de ce type, qui sont parfaitement insupportables.
Maître Eolas, sur ce point.
C'est quand même un des inconvénients majeurs. La presse, au moins, c'est hiérarchisé. C'est clair, peut-être qu'on ne parle pas aussi franc, mais je me demande quelquefois si ça ne vaut pas mieux.
Maître Eolas ?
Sur les blogs, il n'y a effectivement aucun tri préalable des commentaires. Maintenant, y voir à chaque fois de la diffamation ou de l'injure, ce n'est pas le cas. J'ai rappelé à l'occasion que juridiquement, les blogueurs sont responsables des commentaires qui y sont publiés. Pour ma part, je laisse les commentaires ouverts et publie immédiatement. C'est une question de principe. Je cherche à établir une discussion sur les thèmes que j'aborde. C'était mon but étant d'informer sur la justice et le droit. Parler tout seul me paraîtrait pour le moins saugrenu. Mais je m'oblige à lire tous les commentaires qui sont publiés, ce qui est parfois fort long quand il y a 140 commentaires dans une journée, et je n'hésite pas à supprimer, mais a posteriori, assez rapidement après leur publication, les commentaires qui sont purement injurieux, que ce soit à mon égard, si ce n'était que ça, ou à l'égard d'autres personnes. Donc il y a une surveillance qui est effectuée. C'est vrai qu'elle est a posteriori, mais c'est d'une question de minutes. Simplement, on ne peut pas résumer les commentaires à cela. Le nombre de commentaires que je mets hors ligne sur mon blog est infime. Je pense que ce n'est même pas de l'ordre de 1%. Mmh. La plupart des commentaires, bon, il y a beaucoup d'approbations, de remerciements sur ces billets. C'est toujours très agréable, même si je n'y réponds pas. Je feins de ne pas les avoir lus pour épargner ma modestie. Mais la plupart des commentaires sont très pertinents, réagissent, rebondissent, posent des questions, demandent des précisions et sont extrêmement intéressants. Réduire les commentaires à un bruit, à des attroupements de qui hurlent les slogans, c'était pas du tout le cas. Au contraire, c'est je poserais mais diamétralement ce qu'on voit dans les grandes manifestations de rue où tout le monde scande des slogans et très simplificateurs, très courts où il y a aucun débat, et les commentaires où des points de vue s'opposent, réagissent parfois avec virulence, mais dans la limite, en tout cas, de la légalité, c'est certain, et la plupart du temps de la courtoisie aussi.
Comment se fait la chimie de la qualité, Versac, d'après vous, sur ces blogs-là? Alain Gérard disait effectivement, il y a de tout, et au final, Dieu reconnaît les siens. Comment ça se passe? C'est quoi? C'est la contradiction permanente?
C'est le réseau et la hiérarchie qui se crée entre les gens qui parlent et qui contribuent. Il faut voir que les lecteurs des blogs sont très souvent des contributeurs actifs, c'est-à-dire qu'on consomme différemment. Et c'est un peu la bonne vieille presse. Quand j'entends Alain Gérard, ça m'a, j'ai l'impression d'entendre la bonne vieille presse qui dit « Oh non, protégez-nous de nos lecteurs, s'il vous plaît. » Voilà. Alors effectivement, les commentaires, c'est un peu quand on termine une chronique d'Alexandre Adler dans Le Figaro. À la fin, il y en a qui vont dire « Quel con !» Il y en a qui vont dire « Ça oui, non, il a tort à tel endroit. » Et qui vont aller chercher sur Internet le chiffre et qui vont lui mettre sous le nez et qui vont aller dialoguer avec lui. Et ben, alors ça, c'est pas évident pour un journaliste qui a pris l'habitude... Et c'est pas une attaque ad hominem d'Alexandre Arrière, c'était un pur cas d'école. C'est juste que
va vous répondre.
Et on rend public chiffres, la discussion.
Pour les chiffres, Alexandre.
Voilà. Non, c'est pas 25%, c'est
28%. On a rien avec les chiffres, voilà, je le reconnais.
Donc la qualité se fait par le frottement et les échanges.
Le frottement et l'échange, et qui est rendu public, c'est la discussion, les lecteurs qui, c'est une discussion, c'est la discussion qui existe, je veux dire. Elle existe dans les rues, dans les cafés, elle dans les familles, et tout d'un coup elle est rendue publique. Et alors évidemment il y a des excès, mais ils s'automodèrent aussi. C'est-à-dire que se crée une hiérarchie, même parmi les commentateurs d'un blog, où on sait que celui-là, qui utilise tel pseudo, on a l'habitude qu'il nous apporte des éclairages intéressants. Tandis que celui-là, oh, il est toujours vindicatif, il n'a aucun intérêt. Les lecteurs savent faire la différence. Le bruit, il y a une hiérarchie qui se fait dans le bruit, peu à peu, progressivement, par l'effet du réseau. Elle est difficile, elle est complexe, mais elle est inévitable de toute façon.
Zaki Laïdi.
Alors, d'abord, moi, il y a un terme vis-à-vis duquel je suis extraordinairement réticent, c'est cette idée de bruit. Hein, pardonnez-moi, mais l'idée de bruit, pour moi, est un terme qui ne fait pas sens. C'est pas du bruit, c'est une expression collective ou individuelle de gens qui ont des idées à faire valoir dans le débat public. Simplement, ils utilisent une ressource qui s'appelle Internet. Mais c'est pas un bruit. Alors, la question de la qualité, moi j'y suis absolument attaché. Et qu'est-ce qui fera la différence? Ben, c'est d'abord le temps. Hein. On voit ce qui tiennent et ce qui ne tiennent pas. Et personnellement, je ne sais pas si Telos arrivera à tenir la qualité qu'elle a, parce qu'il faut mobiliser tous les jours des gens à qui il faut dire il faut faire un papier original sur tel et tel sujet. Bon, et le deuxième, alors là je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire, c'est la reconnaissance, c'est-à-dire qu'on voit bien les effets de reconnaissance qui peut y avoir ou ne pas y avoir. Mais je veux dire, dans le cas de Telos, mais je veux dire, on a des instruments qui sont presque infaillibles, c'est-à-dire que si un tiers des articles sont aujourd'hui achetés par la presse, y compris la presse étrangère, si avec certains journaux on arrive à concevoir des grands journaux, des dossiers à partir des textes de Telos, eh bien j'estime que...
Voilà, donc la légitimité pour vous, Zaki Laïdi, elle vient de toute façon d'ailleurs. Elle n'est pas liée aux médias Internet, il n'y a pas de spécificité là.
Absolument.
Particulière.
Je pense que
parce que des journaux vous rachètent, que vous estimez que vous faites du bon travail.
Non, il y a la communauté... Non. Il y a par exemple quelque chose qui est très très important, c'est le regard que la communauté intellectuelle et d'universitaire porte sur le travail de Telos. C'est-à-dire que on le voit dans les réactions, et la facilité actuelle assez grande, mais je ne dis pas qu'elle va durer, de gens que l'on sollicite pour écrire, consiste à dire, bah, allez sur le site, regardez ce qui est fait, et ils reviennent au bout de 10 minutes en disant, effectivement, on voit bien qui écrit sur ce site. Donc il y a un processus de légitimation par les auteurs. Et je dirais, ce qui facilite le processus, c'est le fait que il y a cette reconnaissance mutuelle qui est toujours dans la vie quelque chose de très important. C'est-à-dire que vous allez d'autant plus vous exprimer dans un lieu ou dans un espace que d'autres que vous estimez être de qualité s'y expriment. Voilà.
Donc pour paraphraser un titre d'Alexandre Adler, on ne voit pas finir le monde ancien sur Internet. C'est encore l'université, la presse, les auteurs, oui, les intellectuels, avec... tout ce qui est conçu hors espace numérique, oui, qui donne la qualité de
avec
ce
des moyens décuplés quand même.
Avec des moyens décuplés, bien entendu.
C'est les lettres de lecteurs des journaux d'autrefois, mais qui soudain deviennent accessibles à des millions de personnes.
Avec, absolument, je suis d'accord avec Alexandre, avec cet élément aussi qui est très important, c'est-à-dire la lisibilité. Il y a un travail d'editing. Il y a une équipe, c'est une équipe rédactionnelle, simplement c'est des intellectuels qui en plus font du journalisme intellectuel, de l'intervention, c'est-à-dire qu'il faut éviter par exemple le jargon excessif, les expressions excessives que ne comprennent que les initiés.
Bon, le monde ancien est fini ou pas, Versac, d'après vous? Parce que à lire d'autres blogs, par exemple celui du journaliste Daniel Schneiderman qui s'appelle Big Bang Blog et qui fait l'inventaire, je cite de mémoire, de tout ce qui craque, de tout ce qui bouge, de tout ce qui s'effondre dans le monde ancien, donc notamment celui de l'information, l'ancienne conception de l'information, celle de la presse, là, débat généralisé, échange de points de vue contradictoires, le monde ancien est en train de finir. Vous partagez ou pas cette analyse, Versac?
Non, moi j'ai pas encore vu finir le monde ancien. Il y a une transition, c'est-à-dire que oui, c'est bien qu'il y ait des gens comme ceux de Telos, des intellectuels qui descendent un petit peu dans l'arène et qui s'ouvrent à cette opinion, mais pour le quidam de base, lire un texte de Lionel Fontanier ou je ne sais quel auteur,
puisqu'il Monique Dagneau, Pierre-Michel Menger,
voilà, sur Telos, n'est pas forcément très parlant. C'est-à-dire que pour un universitaire, ah oui, regardez, tous ces gens-là qui parlent, pour l'individu de base qui souhaite construire sa connaissance, et donc il a besoin de passeurs. Et ces passeurs, c'est un peu tous ces nouveaux gens dont je suis qui lisaient la presse, qui lisent des productions intellectuelles, qui lisent des revues et qui font cet intermédiaire. Et puis tout d'un coup, on va voir émerger par la reconnaissance de leur père des nouvelles autorités ex nihilo. C'est très étonnant de voir que dans l'économie, par exemple, les blogs économiques de talent ne sont pas des blogs de grands économistes. Alors certes, il y a quelques blogueurs français qui se sont mis au blogging, ou aux États-Unis, sur le commentaire politique, ce sont des jeunes, de manière extraordinaire, qui se sont vus, ont une notoriété incroyable, qui sont devenus des chroniqueurs maintenant...
Comme iconoclastes.
Voilà, Iconoclaste par exemple, ou Ceteris Paribus en France. Aux États-Unis, vous avez un Matthew Iglesias qui était un étudiant en BA, même pas un doctorant, etc., qui tenait un blog de commentaires politiques extrêmement pertinent, qui maintenant est devenu un chroniqueur dans je ne sais plus quel New Republic ou je ne sais plus quel canard, qui comme ça, par son blog, parce que Matthew Iglesias avait une autorité auprès de millions de personnes. Et donc c'est aussi ça, les blogs, c'est aussi ça. Alors ça se fait en transition, ça craque pas complètement, ça va pas remplacer, c'est complémentaire.
Alexandre Adler, voilà. Puis on donnera le jugement final à Maître Eolas.
Je ferai la comparaison entre le théâtre et le cinéma. Le théâtre et le cinéma mettent en scène des passions, racontent des histoires. Il y a eu un début du cinéma parlant, notamment, qui a été du théâtre filmé. C'est d'ailleurs pas mal. Je recommande encore la vue de l'habit vert, ces messieurs de la santé, avec les répliques. C'est pas du tout de mauvais film. Mais évidemment, l'écriture cinématographique s'est très rapidement émancipée du théâtre filmé. Et dans ces conditions, elle a trouvé, justement, à utiliser petit à petit tous les moyens technologiques nouveaux, et notamment les récits imagés que le cinéma lui permettait d'avoir. Eh bien, pour le blog, c'est la même chose. Au départ, ce sont des lettres de lecteurs plus rapides, plus nombreuses, plus importantes, donc une densification du débat. À l'arrivée, je pense que le style du blog sera différent du style de la presse écrite. C'est évidemment comme la langue d'Ésope, la meilleure et la pire des choses, parce qu'il est évident que ça va être beaucoup plus polémique et que les gens vont voir les blogs parce qu'ils aiment la boxe.
Zaki Laïdi, un mot de conclusion.
Pour dire que je crois qu'il faut raisonner en termes de continuité, en termes de complémentarité plutôt qu'en termes de rupture. Je veux dire, voilà.
Maître Eolas.
Ah, pour ma part, je me reconnais tout à fait dans le terme de passeur qu'employait Versac. C'est exactement le sens de ma démarche vis-à-vis du monde judiciaire et du droit. Et mon public n'est pas un public d'universitaires, mais vraiment de citoyens. Et la meilleure reconnaissance que j'ai obtenue, c'est que de plus en plus d'autres acteurs du monde judiciaire, magistrats et avocats, me lisent, participent et interagissent avec mes propres lecteurs. Cela dépasse les espérances que j'avais à la création de mon blog.
Voilà, on peut au moins dire, pour conclure ce débat, naissance d'une nouvelle médiation, d'une nouvelle figure de passeur, peut-être plus qu'une révolution, en tout cas on verra. Instruction du dossier en cours, merci Maître Eolas, merci Versac, merci Zaki Laïdi d'avoir été avec nous aujourd'hui. On indiquera évidemment sur le site internet de l'émission l'ensemble des liens vers vos blogs et autres agences intellectuelles. Merci également à toute l'équipe des Matins de France Culture, Caroline Brouet, Louise Touré, Blaise Thierry, Laetitia Cordonnier, Victor Pouchet, notre stagiaire, Massimo Bellini à la réalisation et Mathieu Ribaud à la technique. 9h tapante sur France Culture.